En préparant ce mot d'accompagnement, j'ai repensé au chemin parcouru depuis que je suis venu au centre la première fois. J'ai eu, comme plusieurs parmi vous, la chance de découvrir et de voir se développer une très belle communauté spirituelle, une communauté vivante, engagée, très énergique. Et nous avons pu étudier et pratiquer auprès de M. Lowe pendant de longues années. En 2019, 3 ans après le décès de notre maître, nous avons invité Jeff Shore à venir travailler avec nous. Et depuis, Jeff n'a jamais cessé de nous soutenir et de nous guider. Nous avons maintenant, du moins on peut l'espérer, traversé une pandémie. Depuis 2 ans, nous avons dû largement nous absenter du centre. Mais nous sommes restés ensemble via nos soirées de zazen, nos retraites et nos journées intensives en ligne. Nous avons construit une sorte de zendo sans mur pour continuer à être ensemble. De nouveaux membres se sont également ajoutés grâce aux ateliers d'introduction et peu à peu, nous reprenons nos activités au Zendo. Nous avons traversé ensemble une magnifique leçon d'impermanence. Et comme Jeff l'a dit un jour dans l'un de ses Dharma Talks au centre, s'il était là, Albert aurait sûrement un grand sourire. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter quelques lignes d'un Teisho de M. Lowe, le Teisho 11-27, dans lequel il commente lui-même une conversation du maître indien Nisargadatta. Comme vous le verrez, dans cet extrait, Albert nous parle de l'une des deux pratiques fondamentales du Zen, la pratique de Shikantaza, ce qui signifie « seulement s'asseoir ». Mais avant de passer au texte lui-même, j'aimerais faire un détour et m'attarder à une question toute simple. Lorsque nous méditons, comment pratiquer pour en arriver à se connaître soi-même et se libérer du mal que nous nous infligeons à nous-mêmes et que nous infligeons aux autres? Le grand sage indien Ramana Maharshi disait qu'il existe 2 voies fondamentales que l'on peut adopter pour y arriver. La première est le questionnement, qu'il appelait « self-inquiry » ou « investigation du soi ». Le koan « Qui suis-je » par exemple en est un parfait exemple. Il recommandait à ses disciples de sans cesse questionner qui ils étaient, à se demander par exemple « Qui ressent des sensations ?» Qui pense les pensées? Qui voit tout cela? Qui agit? Qui parle? Qui respire? Qui pratique la méditation? Ou en ce moment même, qui entend ma voix? Qui dites-vous que vous êtes? Il disait qu'en questionnant ainsi sans relâche le soi, celui-ci en venait naturellement à se fondre d'une façon tout à fait spontanée, avec sa propre source. Ramana Maharshi disait que lorsque cela se produit, le sens de soi, ce sens qui nous est si familier et qui nous amène à croire que nous sommes quelque chose, une personne, une âme, un individu ou une personnalité dotée d'une existence propre, ce sens de soi disparaît. Ou, comme le dit parfois Jeff Shore, l'on voit enfin à travers l'illusion du moi. Comme vous le savez, le questionnement est l'une des voies privilégiées par le Zen Rinzai. L'autre voie fondamentale que Ramana Maharshi essayait de décrire par le mot anglais « surrender » évoque le fait de reconnaître avec humilité notre propre impuissance à nous libérer nous-mêmes, de renoncer à résister, à se défendre ou à contrôler quoi que ce soit. N'est-ce pas là aussi le sens même des mots du Notre Père chrétien, que ta volonté soit faite? Dans le zen, on dira que c'est la foi. Non pas la foi basée sur des croyances apprises, mais une foi fondée sur l'expérience, qui nous amène à être ouverts, sans protection, totalement sans défense, complètement nus face au monde. J'ai lu récemment une phrase qui semble bien décrire ce dont je parle ici. Cette phrase dit « De temps à autre, quelque chose se brise comme de la glace, et nous sommes dans la rivière de notre existence. » C'est là l'essence même de la pratique de Shikan Taza. Cette voie a longtemps été associée à l'école du Zen Soto. J'ouvre ici une parenthèse pour vous parler d'une autre école bouddhiste, l'école de la terre pure, dont toutes les pratiques reposent aussi sur la foi. Selon cette doctrine, seule la confiance dans l'assistance et la grâce infinie d'Amida, le Bouddha de la terre pure, peut permettre d'obtenir le salut. Et il est inutile de croire que l'on peut y arriver par soi-même et de se comporter comme si nos efforts personnels pouvaient contribuer à notre délivrance. Shinran, l'un des fondateurs de cette école qui vit le jour au XIIe siècle, nous invite à renoncer à ce qu'il appelle notre esprit calculateur, cet esprit mercantile qui cherche constamment à calculer ce qui peut être obtenu en agissant de telle ou telle façon. Seule la foi dans le pouvoir et la grâce infinie d'Amida suffisent. Comme l'écrit Shinran, renoncez au désir de mettre fin à vos illusions. Ces illusions et les passions qui en découlent sont les fruits du karma. Il n'y a pas lieu d'en avoir honte. Nos vertus, elles aussi, sont les fruits du karma. Il n'y a pas lieu d'en être fier. Ouvrez-vous complètement à la grâce d'Amida. Elle seule vous sauvera. La seule pratique de cette école est l'invocation du nom d'Amida, ce que l'on appelle le Nembutsu. Il suffit aux pratiquants de se répéter intérieurement, avec une ferveur totale, Namu Amida Butsu, ce qui signifie « Je prends refuge » auprès du Bouddha Amida. Cela veut dire renoncer à tout effort personnel pour changer quoi que ce soit et s'en remettre complètement à la grâce infinie d'Amida. Encore ici, l'on croit entendre la prière « Que ta volonté soit faite » de la foi chrétienne. Mais revenons au questionnement et à la foi telle qu'il se présente dans le zen. Dans le zen, c'est la pratique des koans qui donne une forme au questionnement. Plusieurs parmi vous travaillent déjà avec un koan. Et comme vous le savez, les koans posent des questions paradoxales, des questions qui ressemblent à des énigmes insolubles. Elles défient la logique et la réflexion intellectuelle est impuissante à les résoudre. En voici un exemple. Vous voyez tous ma main, n'est-ce pas? Si vous dites que ceci est une main, je vous donnerai 30 coups de bâton. Si vous dites que ce n'est pas une main, je vous donnerai 30 coups de bâton. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez répondre, n'est-ce pas? Et pourtant, vous devez répondre. Voilà ce qu'est un koan. Et les koans du zen donnent une forme au questionnement. Mais qu'est-ce que c'est, le questionnement? Albert disait souvent qu'il y a dans la vie même une question inarticulée. une question que l'on n'arrive pas vraiment à formuler, une question que l'on a, pour ainsi dire, sur le bout de la langue, mais qui nous échappe sans cesse. C'est une sorte de koan naturel, un koan sans parole. On en ressent la présence comme une soif, une faim, une sorte d'élan vers, une nostalgie de quelque chose. Mais de quoi? On a l'impression qu'il manque quelque chose dans notre vie. Et l'on voit bien que, quoi que l'on fasse, l'on n'arrive pas à combler ce manque. C'est souvent ce qui amène les gens à se tourner vers une pratique spirituelle. L'on s'y engage alors avec l'espoir d'y trouver ce quelque chose qui nous échappe. On a l'espoir d'ajouter quelque chose à notre vie et que cela viendra apaiser toutes nos questions. Quelle grande erreur aurait sans doute dit Maître Rinzai. Mais pourquoi, Maître Rinzai disait-il aux moines qui étudiaient avec lui au 9e siècle, que c'est une erreur de chercher quelque chose, une réponse, une vérité quelconque ou une expérience libératrice dans le zen? Est-ce que ce n'est pas là ce que nous faisons tous, au moins au début de notre pratique? Mais en quoi est-ce une erreur? Nous arrivons au zen, et c'est probablement le cas aussi pour d'autres formes de spiritualité, avec l'espoir d'y trouver quelque chose de plus, quelque chose de spirituel qui viendra illuminer notre vie, lui donner du sens peut-être, apaiser notre souffrance, nous rendre meilleurs, plus compréhensifs et tolérants, plus. Plus, plus. Nous avons soif d'expérience et nous sommes convaincus que si nous y mettons les efforts requis avec patience, en nous pliant à tout ce qui nous est demandé, nous mettrons un jour la main sur cette perle rare, une expérience spirituelle, un éveil qui nous libérera de fond en comble de toutes nos questions et mettre fin à tous nos problèmes. Si vous pratiquez depuis un certain temps, vous savez déjà qu'effectivement, de nombreuses expériences apparaissent dans la pratique. On vit toutes sortes de choses. Certaines de ces expériences sont inspirantes. On y trouve parfois une grande paix, un calme serein. Notre vie nous paraît tout à coup plus légère. Des intuitions éclairantes nous traversent. On a alors l'impression qu'enfin, la pratique commence à porter fruit. On s'accroche si facilement à ces expériences, n'est-ce pas? On veut les retrouver, les conserver, on veut en parler aux autres, s'informer auprès d'eux à ce sujet. On lit des livres, des articles. On veut que tout cela dure et continue. Il y a aussi d'autres expériences, plus difficiles celles-là, des états d'esprit de confusion, de doute, d'incompréhension, ou simplement un ennui profond, des émotions telles que l'anxiété, le découragement, la colère, l'envie, des sentiments d'infériorité. Et que dire de la douleur physique que l'on cherche à éviter? De l'agitation intérieure qui nous porte à bouger sans cesse. Voilà des expériences que l'on veut chasser, éliminer, que l'on refuse. On a alors l'impression que rien ne va dans la pratique, que l'on est perdu et que tout cela ne sert à rien. Alors on repart en chasse pour retrouver un semblant de paix, un peu de calme. Et l'on tourne en rond. Sans jamais voir que ce que l'on cherche est déjà là, sous nos pieds même, et que cela ne dépend d'aucune expérience particulière. C'est complètement libre, vivant et gratuit. Mais la plupart du temps, on ne le voit pas. On s'en détourne même, mais sans le savoir. On croit sincèrement qu'il manque quelque chose à notre vie et qu'il nous faut le trouver. Les koans traditionnels du Zen donnent une forme à l'interrogation fondamentale qui nous habite. Ils n'offrent cependant aucune réponse. Ils permettent simplement au questionnement de prendre toute la place. Sans refaire ici l'histoire des koans tels qu'ils ont évolué dans le Zen, il est important de se rappeler que toutes les questions que posent les koans ont été autrefois des questions vivantes. Elles ont habité, sinon hanté, des hommes et des femmes qui, eux aussi, ressentaient cette même soif de se connaître eux-mêmes et de chercher une voie au-delà de la souffrance. Lorsque l'on pratique avec un koan, il faut devenir très intime avec la question, apprendre à la connaître sans se servir des mots. Pensez par exemple au premier koan du Mumonkan, le koan Mu. Un moine demanda à Joshu, le chien, a-t-il la nature de Bouddha? Joshu répondit, Mu, c'est-à-dire non. Et alors le maître vous demandera, qu'est-ce que c'est, Mu? M. Lowe disait que c'est un très bon koan, car on ne pouvait même pas le formuler. Mu n'est pas une réponse à la question qui est posée. Mu abolit la question elle-même. Avec ce koan, on ne peut s'accrocher à rien. C'est un koan qui se coupe lui-même l'herbe sous le pied, et on doit le voir. On doit apprendre à poser la question avant même que la question se pose. Dès qu'elle se pose, ce n'est pas cela. C'est un koan qui nous rend muets et qui nous réduit au silence. M. Lowe disait que les koans du Zen sont comme des fenêtres. On ne regarde pas une fenêtre, l'on regarde à travers une fenêtre. Et ce sont des fenêtres qui s'ouvrent sur ce que nous sommes vraiment. Voilà le sens du questionnement qui est enfermé dans les koans. Vous n'y trouverez aucune réponse, car vous êtes au-delà de toute réponse. Aucune réponse ne peut vous limiter ou vous enchaîner. Mais même si vous savez cela, ça ne vous sert à rien. La question inarticulée qui vous habite, même si parfois vous l'entendez à peine, continue à vouloir se faire entendre. Comme le disait un maître, votre trésor, c'est votre question. J'arrive maintenant au texte que je souhaite commenter. M. Lowe y parle de la pratique de Shikantaza, la deuxième pratique fondamentale du Zen. Je vais d'abord lire le texte et ensuite faire quelques commentaires. Il dit, et je cite, « Souvent les gens perdent espoir quand ils pratiquent. Ils veulent avoir une prise, un levier pour se propulser dans la pratique. Quand ils permettent à la pratique d'être tout simplement, invariablement, l'esprit se remplit de pensées. Un peu comme si un vide se faisait et qu'aussitôt, toutes sortes de choses s'y précipitaient pour le meubler. Mais si l'on demeure ferme, il est possible de simplement consentir au va-et-vient de ses pensées. Alors vient un sentiment de perte de temps. Une urgence se fait sentir, l'impression que le temps passe et qu'il nous faut agir. Encore ici, simplement permettre à ce sentiment d'urgence d'aller et venir. Et puis encore, vient un sentiment de futilité, d'inutilité. Ce que l'on fait ne mène nulle part, ne donne aucun résultat, rien n'arrive. Et également ici, on laisse passer. C'est la pratique de Shikantaza. Simplement s'asseoir. Simplement s'asseoir, c'est être, tout simplement. C'est la même chose. Fin de citation. Que nous dit Albert dans ce texte? Il nous parle d'abord des états d'esprit que nous traversons parfois lorsque nous pratiquons. Il dit, par exemple, les gens perdent espoir quand ils pratiquent. Il évoque un sentiment de perte de temps, une urgence d'agir devant le temps qui passe, un sentiment de futilité, d'inutilité, l'impression douloureuse que ce que l'on fait ne mène nulle part. Il dit aussi que ces états d'esprit, et ce ne sont pas les seuls qui peuvent apparaître, se présentent dès que l'on permet à la pratique d'être tout simplement. Laisser la pratique simplement être, cela veut dire ne pas intervenir. Cesser de vouloir contrôler ce qui apparaît dans la pratique. Renoncer à imposer à la pratique une direction ou une finalité. On laisse la pratique être ce qu'elle est. Et comme l'a dit Albert, on laisse passer tous les états d'esprit qui se manifestent. On ne s'attarde à rien et on ne s'approprie rien. Rien n'est refusé, rien n'est retenu. On consent simplement, avec chaque respiration, au va-et-vient continuel de l'expérience. Cette ouverture, c'est la foi. Et comme le dit M. Lowe, c'est la pratique de Shikantaza, simplement s'asseoir. Simplement s'asseoir, c'est être tout simplement. C'est la même chose. La pratique des koans donne une forme au questionnement et lui permet de s'approfondir sans cesse. La pratique de Shikantaza permet à la foi de se manifester et de nourrir la pratique. C'est être nu, sans défense, sans aucune protection, en laissant être ce qui est, sans rien demander d'autre. Un jour, quelqu'un demanda au Bouddha en quoi consistait la vie sainte. Voici ce qu'il répondit. L'essentiel de la vie sainte ne consiste pas à obtenir gain, honneur ou renommée, ni à gagner des mérites par l'observance de règles morales, ni à acquérir les fruits de la connaissance et de la compréhension. L'essentiel, ô moine, est la délivrance du cœur. Voilà la signification. Voilà l'essence. Voilà le but de la vie sainte. La délivrance du cœur. Qu'est-ce que c'est? Que doit-on faire pour y arriver? Quelle est la voie à suivre? Maître Dogen, l'un des grands maîtres du zen japonais qui vécut au 12e siècle, nous dit, et je cite, « L'on ne pratique pas le zen pour s'éveiller. L'on pratique le zen pour se libérer de l'illusion que l'on n'est pas éveillé. On ne pratique pas le zen pour atteindre la délivrance du cœur. L'on pratique le zen pour se libérer de l'illusion que le cœur n'est pas libre. » Voyez-vous, Nous sommes déjà là où nous allons. Et notre vie quotidienne est déjà notre vraie demeure. Il n'y manque absolument rien.